RMC, 18h-20h, Larquet Foot, Jean-Louis Tour, Jean-Michel Larquet.
Avec un gros programme, Captain Larquet, nouvel épisode de Larquet Story. On sera avec Alain Giresse. En retrait pour Giresse, bien sûr, on est obligé d'avoir Alain Giresse à un moment. Lorsqu'on se remémore les étapes clés de ta carrière de joueur, de commentateur, capitaine. On sera également avec Ruben Aguilar, l'une des révélations de la saison, le latéral droit Montpellierain. Ce sera dans quelques minutes. Est-ce qu'il croit à l'équipe de France, Aguilar? On lui posera donc la question dans l'Arqué Foot sur RMC. Et puis, en plus de tout cela, capitaine, il y a une bonne nouvelle pour le tennis français pour l'instant qui se dessine avec le match de risque. Richard Gasquet en quart de finale au Master 1000 de Monte Carlo. Eric Salio.
Oui, 1-7-0 à l'instant pour Richard Gasquet. Une manche remportée, 6 jeux à 4. Mais la fin de deuxième set a été très compliquée pour le français. Il a vraiment fallu qu'il serre le jeu et puis qu'il sort des coups un petit peu magiques comme cette amortie sur balle de set que Zverev n'a absolument pas vu venir. Donc une manche à 0. Mais je suis bon que Zverev, quatrième mondial, va réagir parce que physiquement, il est déjà au-dessus du français.
Si, Subodor en plus.
Bien sûr, mais il hausse le niveau.
Suppute pas et qu'il subodore.
Allez, on enchaîne. Merci, Eric.
RMC.
Et le but de Benzema. Goal de Karim Benzema. Mettez bon, Benzema.
Capitaine contre-attaque.
Nous accueillons donc Fred Hermel en Espagne. Salut Fred.
Ça faisait longtemps ça.
Oui, bah t'es plus habitué cette saison.
Oui, voilà. Je préférais devancer ton sarcasme. Hola chicos.
Alors voilà, Fred, tu nous as concocté une minute Hermel. Sachez-le, sera dans quelques minutes sur les articles sortis en Espagne aujourd'hui autour de Neymar. Mais donc Benzema, on va en débattre avec toi Fred et avec Jonathan Macardy, car comme tous les vendredis, l'after est avec nous dans l'Arqué Foot. Salut Jonathan.
Salut Jonathan. Jean-Louis, salut Captain, salut Fred. Jonathan.
Alors Benzema donc et son inefficacité qui revient quand même beaucoup ces derniers temps. 5 buts en championnat inscrits seulement par Benzema depuis le début de la saison. Les propos de Zidane en plus dans la semaine, il aimerait marquer beaucoup plus mais c'est un blocage. Il suffit peut-être d'un petit truc pour le relancer. Alors cette saison, c'est le débat qu'on veut lancer ce soir dans l'Arqué Foot, va-t-elle marquer un tournant en termes de crédibilité pour Benzema au Real? Le club doit-il tourner la page Benzema et se tourner vers un autre avant-centre? 32-16 et hashtag RMC Live. Captain, qu'est-ce que t'en pense?
Écoute, on sait que c'est toujours difficile de changer une équipe qui gagne. Celle du Real Madrid la saison dernière était encore championne d'Europe. Elle est toujours tenante de ce titre-là. Et c'est toujours compliqué. Mais il est évident que pour faire court, à mon avis, Karim Benzema, il en a fait beaucoup plus qu'il n'en fera avec le Real Madrid. Et il est évident aussi que du côté du Real, sans jeter à la poubelle ceux qui lui ont donné des titres et ceux qui ont fait la réputation du club, on pense à l'après-Benzema comme on pense à l'après-Ronaldo. Mais je m'arrêterai quand même sur un chiffre. Tu as parlé de 5 buts. 5 buts, Fredo. Tu sais combien le Real en a marqué cette année en championnat?
Je sais que Benzema n'a marqué que 0,19 buts par match auquel il a participé.
Oui, le Real Madrid a marqué 80 buts cette année en championnat. Il est évident que même si Karim Benzema n'est plus l'avant-centre qu'il n'a jamais véritablement été, puisque l'électron libre devant, c'était plutôt Ronaldo. Mais 5 buts, c'est une misère. Ouais. Et il est évident que à cette inefficacité se sont ajoutées des performances très moyennes qui ont fait que même le Santiago Bernabéu a pris en grippe Karim Benzema. On peut pas dire que les conditions pour se refaire la cerise soient les meilleures. Il est évident, on parle d'attaquant de pointe et on parle avec insistance de Lewandowski qui vient de changer d'agent. Et il est évident que pour Karim Benzema, la saison prochaine, un petit peu comme Gareth Bale cette saison, à mon avis, Fredo, il sera plus souvent remplaçant que titulaire.
Alors Fred, qu'est-ce que t'en penses?
Alors je vais commencer par déjà de l'information avant de bâtir mon opinion. Oui, il y aura de la concurrence très dure pour Karim Benzema la saison prochaine. Ça, je peux vous l'assurer. Bale va partir en fin de saison, mais le Real a prévu le recrutement d'un grand numéro 9 européen, en tout cas qui joue en Europe. Au mois de janvier, le club voulait recruter Icardi, Mauro Icardi, de l'Inter Milan. Zidane a tout arrêté, de la manière qu'il a empêché l'arrivée de Kepa, le gardien de Bilbao. Il a voulu aller jusqu'au bout avec son groupe. Donc Benzema est déjà conscient qu'il aura affaire à bien plus forte concurrence que celle qu'il a eue cette année, puisque cette année, il avait le jeune
Mayoral, ouais.
Borja Mayoral. Donc c'était pas une concurrence énorme. Mais Karim Benzema, c'est vrai, est très mauvais en buteur. Sauf que c'est le meilleur passeur du Real cette saison. Eh ben oui, et ça compense. Il y a une sorte de vase communicant, énormément lié à la repositionnement de Cristiano Ronaldo de plus en plus au cœur de la surface de réparation.
Il joue en neuf, hein, Ronaldo, cette saison, Fred.
Oui, quasiment le plus souvent, avec un Benzema qui doit décrocher de plus en plus pour continuer à servir Cristiano Ronaldo. Et j'insiste, Karim Benzema est le meilleur passeur du Real Madrid cette saison. En plus, il y a de nombreuses actions où il est à l'origine. On voit par exemple le deuxième but du Real à Malaga, où ça part d'un mouvement extraordinaire et d'un geste technique extraordinaire de Karim Benzema, qui donne la balle à Isco, qui fait une passe décisive pour Casemiro. Donc il est aussi générateur d'actions qui ne sont pas comptées dans les buts. À côté de ça, oui, il y a un problème devant le but. Benzema est à un blocage, Zidane l'a reconnu, ce que tout le monde voit, mais c'est la première fois que Zidane, et on l'a entendu sur RMC, c'est la première fois que Zidane employait ce mot de blocage et qu'il réclamait un peu plus de buts à Karim Benzema. Donc Karim Benzema, n'a pas tourné la page, mon avis, le Real ne doit pas tourner la page avec Karim Benzema. Il y aura peut-être une décoration de la page, une édition un petit peu différente avec un grand concurrent, mais Benzema va rester au Real et Benzema, j'en suis persuadé.
Avant que Jonathan enchaîne, il y a aussi, Fred, incontestablement, l'avènement, les progrès de jeunes joueurs. Alors Isco était un peu dans une catégorie différente, mais c'est vrai que chaque fois que je vois jouer ou Lucas Vázquez, ou Asensio, ou les deux en même temps, je trouve que ces garçons-là ont pris quand même une envergure qu'ils n'avaient pas il y a encore une saison.
C'est
pas le même poste, ouais. Tout ça.
Bah, les gars, l'influence d'Asensio dans le jeu, dans la construction des offensives du Real, elle est assez prégnante. Donc ça, on peut pas lier. Après, moi, ce que je vois sur la saison de Benzema, c'est que bon, Fred a totalement raison de signaler que le repositionnement de Ronaldo vampirise un petit peu, cannibalise un petit peu les occasions de but à la pointe de l'attaque madrilène. Donc c'est, à mon sens, ça peut expliquer pourquoi Benzema marque moins. Tout à fait d'accord sur le fait que Benzema reste un excellent passeur et que oui, bah c'est celui qui fait le plus de passes décisives au Real, ça c'est vrai. Mais par contre, ce que je constate, c'est que depuis quelques mois, il y est plus. L'influence qu'il pouvait avoir dans le jeu auparavant, même lorsqu'il ne marquait pas, c'est-à-dire en étant à la base, quasiment en numéro 10, en étant à la base de la construction des offensives du Real, je le vois de moins en moins. J'ai l'impression qu'il est un petit peu dans un creux physiquement. Et j'ai l'impression que, bah voilà, il a 31 ans, il a fait 8 années au Real Madrid. 30 ans, ouais, mais il va faire 31 ans cette année. Il a fait 8 années au Real Madrid. C'est un joueur qui, comme Jean-Michel l'a dit, est plus sur la fin que sur le début. Alors deux choses. La première, c'est je pense que on a tort depuis quelques années à considérer Karim Benzema comme un numéro 9. Je pense que c'est un faux 9, c'est une sorte de numéro 10, c'est un petit peu un joueur qui est hybride.
Oui, Jonathan, sauf que quand il a été faux 9 en équipe de France, ça a été une véritable catastrophe.
Totalement, Jean-Michel. Mais je pense que au Real Madrid, il est dans un contexte différents, avec des joueurs différents, avec des automatismes qui sont intégrés. Et je pense, tu vois, que dans son intérêt, je verrais bien, pourquoi pas, essayer d'entamer, s'il doit rester au Real Madrid, un nouveau cycle, une autre position un peu plus bas. Et là où j'en viens, c'est que la concurrence risque quand même d'être rude avec Vázquez, Asensio et Isco. Et moi, ce que je vois, c'est que Benzema, quand même, ce qu'il a fait à Madrid, en France, on a peut-être tendance à le voir d'un regard un petit peu lointain et à dévaloriser ce qu'il a fait, mais ça fait 8 années qu'il y est. Il a quand même eu de la concurrence dans les pattes, et à chaque fois, il s'en est tiré. Higuain et compagnie, il a chaque fois réussi à s'imposer. Morata, il a réussi à s'imposer. Et je pense que ce qu'il a fait, c'est très beau, mais j'ai l'impression que l'avenir du Real Madrid ne passe pas par Karim Benzema. Et avant que l'histoire devienne un petit peu moche, ça serait bête, parce que l'histoire, pour l'instant, elle est très belle, je pense qu'il faudrait envisager l'année prochaine de tourner tout simplement la page. Et ça serait à pas faire déshonneur à Benzema, ni au Real Madrid, que dire, on se sépare, bons amis, merci pour tout, merci pour ce moment. Et puis,
aucune chance qu'il parte cet été, Fred. selon toi?
Ah, ça, on sait jamais, hein, mais a priori, c'est pas, d'accord, il a prolongé au mois de septembre, hein, pour 2 ans, hein.
Moi, je suis curieux de voir ce que ça donne avec un autre avant-centre. Parce que les meilleures saisons de Benzema, c'est justement quand il n'y avait pas de concurrence et qu'il pouvait enchaîner les matchs sans problème. Donc, bon, après, il n'a pas le même âge non plus,
ça
dépend de Cristiano Ronaldo. Est-ce que Ronaldo va rester?
Et aussi, ça, c'est très important.
Parce que tant qu'il y a Ronaldo, il aime beaucoup son adjoint.
Si je devais faire un petit pari, Fred, je pense que s'il y en a un qui doit rester et un qui doit partir, tu vois vers où ça s'approche.
Ce que veut dire Fred, c'est que si Ronaldo reste, il sera bien content d'avoir Benzema. Voilà.
Après, est-ce que tu vois, voilà, Ronaldo, après la Coupe du Monde, il va avoir un certain âge, il y aura une compétition cet été. Je pense que le Real, donc comme Fred nous l'a expliqué, va beaucoup recruter. Va falloir voir quel profil arrive, quel genre d'attaquant. Si c'est Lewandowski, évidemment, qui a un neuf, qui peut jouer neuf, mais qui participe aussi pas mal à la construction du jeu. Benzema, évidemment, il y a pas photo entre les deux.
Ouais, mais Jonathan,
si c'est Icardi, c'est différent. Tu vois ce que je veux dire, Michel?
À un certain âge, Ronaldo, même s'il a eu un début de saison plus que compliqué, on se demandait quand même dans les matchs décisifs ces derniers temps, tu vois quand même quand tu prends l'exergue des feuilles de match, tu vois quand même
qu'il est
souvent là, hein.
Bien sûr. Non, mais ce que je voulais dire, c'était plus par rapport à Benzema, c'est, tu vois, si c'est Lewandowski qui arrive, qui est un neuf, donc qui participe au jeu, qui a cette capacité à bien faire jouer les autres, à jouer en pivot et même parfois redescendre chercher les ballons un peu plus bas, et ben Benzema, il y a pas de place pour lui. Si c'est Icardi, je demande à voir. Icardi, c'est un peu plus un neuf qui reste dans la surface, un joueur de surface, et là dans ce cas-là, il peut avoir une complémentarité entre Icardi, Ronaldo et Benzema. La complémentarité, c'est Ronaldo, Lewandowski, Benzema, elle est pas évidente pour moi.
Attention, parce que c'est très bien de parler d'autres attaquants. Moi, j'attends de voir parce que c'est sûr qu'il y en aura un autre.
T'as des infos là-dessus, Fred, d'ailleurs?
On parle de Kane, on parle d'Icardi. Moi, ce que je sais, c'est que Icardi
et Lewandowski,
Lewandowski, c'est beaucoup du côté de Lewandowski, parce que Lewandowski va avoir 30 ans quand même, hein.
Ouais. Ouais.
Donc on a l'impression que c'est beaucoup plus Lewandowski qui a envie de venir au Real que le Real ait envie de Lewandowski a plu au Real il y a quelques années. Après, moi, ce qu'on dit, c'est que Zidane aime beaucoup Kane, mais qu'on aime pas trop les Anglais du côté des dirigeants du Real, tout simplement parce que en général ça marche pas.
Ah, McManaman, c'est Anglais, pas mal, non?
Ah bah, il y en a un. Et puis Beckham, les Espagnols.
Et Beckham, oh.
Oui, mais
Beckham
non, mais
et McManaman, c'est pas dégueulasse.
C'est tellement dur.
Quand vous faisiez des soirées ensemble avec Beckham, Fred, oh.
Oui, mais oui, non, mais je veux dire, Beckham, c'est autre chose.
Et McManaman, c'était bien aussi.
Non, mais tu penses plus à Woodgate ou des mecs comme ça, là.
Bah, Woodgate, c'était un désastre. Owen, ça a tenu un an.
Owen, ouais.
Il était tout en remplaçant. Enfin, non, mais, il y a souvent des problèmes d'adaptation des Anglais. Vous avez, par exemple, un joueur Bale, j'ai déjà oublié. Anglais mais britannique, ça fait quoi, 4 ans, 5 ans cinq ans qu'il est là.
C'est plutôt une déception.
C'est pas encore commandé un petit déjeuner en espagnol, donc.
Ah oui.
Tiens. C'est ce qu'on m'a dit toujours. c'est un problème, quoi. Donc.
Ça, moi, j'ai su faire assez vite. Quand j'étais en Espagne.
Bah, la nourriture, Jean-Louis, toi. Hein.
Non, mais c'est vrai. Bon, messieurs, 19h17, vous êtes dans l'Arc et Foot sur RMC. C'est l'heure de la minute Hermel.
Moi, je peux avoir la poupée de la fiancée de Neymar.
Alors, Fred, donc, on voulait avoir ton avis sur la presse espagnole qui sort ce matin 2 articles dans Marca et El País concernant Neymar. Alors, juste avant de te donner la parole, il y a 2 infos révélées dans El País. Nous, à RMC, on a enquêté, on se désolidarise complètement de ces infos. C'est de dire qu'il y a une clause de départ dans le contrat de Neymar qui entrera en vigueur après le 1er septembre prochain. Nous, on n'a pas du tout ces infos. Il n'y a pas de clause selon nous. Et puis que lors du fameux voyage au Brésil, les dirigeants du PSG, Nasser Al-Khelaifi, Antero Henrique, auraient demandé à Neymar de venir faire sa rééducation en France, qu'il aurait répondu non et que les Parisiens seraient assez vexés. Là, pareil, on dément tout ça. Alors Fred, justement, toi au petit déjeuner ce matin, parce que toi tu sais commander les petits déjeuners, quelle a été ta réaction quand t'as vu tout ça dans la presse espagnole?
Ben, ce que j'ai vu dans la presse espagnole, dans l'intérêt énorme du Real Madrid et le forcing que fait le Real Madrid pour essayer de s'attacher les services de Neymar dès cet été, j'ai pas été surpris. D'ailleurs, les auditeurs de RMC qui ont pu m'entendre avec dans cette émission mythique qui est le Larc et Foot dans Team Duga ou dans l'After savent très bien que je l'ai dit à plusieurs reprises. Oui, le Real Madrid est derrière Neymar. Oui, le Real Madrid parle très 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 régulièrement avec Papa Neymar, avec Neymar senior, que même quand il était en train de signer avec le PSG l'été dernier, il était toujours en discussion avec les dirigeants du Real Madrid. La conversation a toujours été très fluide. Le Real Madrid est persuadé, enfin les dirigeants sont persuadés que la saison prochaine ou la saison d'après, Neymar sera joueur du Real Madrid. Et alors, pourquoi la presse espagnole sort ça aussi? Il faut voir le timing aussi. Le Real Madrid ne joue pas ce week-end, puisqu'il y a la Coupe du Roi. Ouais. Il y a la Coupe du Roi et le Real Madrid devait jouer ce week-end contre Séville. Et comme Séville joue la finale Coupe du Roi contre Barça, le match est reporté au 9 mai. Donc il faut sortir un peu quelques informations sur le Real Madrid. Ça fait partie du rythme de vente du papier. Et donc tout simplement, voilà, c'est une information. On n'apprend pas grand-chose de plus. Que la presse espagnole suppose que le PSG puisse être un petit peu inquiet. Oui, moi je comprends que la presse espagnole puisse penser que les Parisiens puissent être inquiets, et je comprends même, et je termine là-dessus, l'inquiétude des Parisiens.
Ah bon? Ouais, écoute, moi je pense que diplomatiquement, on sait l'importance que Neymar a eue pour le Qatar. Dans le contexte de crise géopolitique et de la crise au Qatar, c'était un peu un pied de nez à leurs voisins émiratis de prendre Neymar au nez à la barbe de Manchester City. Et je pense vraiment que les gens à Doha là-bas, c'est hors de question pour eux que Neymar parte dès cette saison. Donc à mon avis, il va y avoir beaucoup de rumeurs parce que c'est une machine à rumeurs. On sait la propension qu'a Papa Neymar à aller à droite à gauche, à discuter à droite à gauche pour entretenir un petit peu la flamme et voir s'il peut pas gratter un ou des millions en plus. Oui, mais très franchement, le Qatar.
Et parce que aussi il y a tout un contexte autour de Neymar qui se prête à l'interprétation. Aussi. C'est-à-dire que quand tu vois qu'il fait sa rééducation au Brésil, tu peux te dire il a quelque chose contre le PSG. Pas quand il tout. S'est plaint du traitement des arbitres, tu peux dire ça. C'est pour ça que je dis que c'est une part d'interprétation.
Mais c'est de l'interprétation, mais très franchement, je pense que les Qataris, ça serait un aveu de faiblesse terrible que de vendre Neymar cette année. Et s'il y a bien une chose sur laquelle je leur fais confiance, c'est d'être ferme et de les garder.
Jonathan. S'en séparer, le vendre, il retomberait quand même dans leur...
S'il veut partir, après.
Oui, mais à mon avis, si Papa Neymar et Neymar lui-même... Enfin, aujourd'hui, ce que je vois, moi, ce que je regarde, ce que j'analyse, c'est que Neymar ne fait pas grand-chose pour prouver son intérêt au Paris Saint-Germain. Il se fait opérer, alors à moins qu'on ait des truffes comme chirurgien, il se fait pas opérer en France. Il y a eu de l'eau dans le gaz entre les médecins, quoi qu'on en dise. Il fait pas sa rééducation. Or en France, il y a quand même des endroits où on peut faire une rééducation qui est quand même, parce que c'est pas les ligaments croisés, c'est une fracture. Donc la rééducation, je vois pas comment on rééduque une fracture, moi. Hein,
c'est de la réathlétisation.
Voilà. Les petits tweets, oh c'est sympa pendant qu'il joue au poker, il regarde en même temps le match.
C'est des stories Instagram, Jean-Michel. Est-ce que tu sais faire des stories Instagram?
Non, je sais rien faire du tout.
C'est vrai, ça c'est terrible.
Attention, faut préciser une chose, je ne suis pas en train de dire que Neymar va venir au PSG, va venir au PSG.
Non, bien sûr.
Non, parce qu'après, il faut bien expliquer les choses.
Oui. Tu dis que ça discute.
Je confirme ce que disent les Espagnols, parce que je le dis depuis longtemps, le Real est derrière Neymar.
Ça durera peut-être 10 ans, hein. Des discussions comme ça. Mais des discussions entre un grand club et un grand joueur, ça peut arriver sans que le joueur ne bouge 3 mois après.
Surtout, il y a une chose importante, c'est que Neymar devait venir au Real, avait passé sa visite médicale
avant de signer au Barça.
Avant de signer au Barça.
Ouais.
Et entre-temps, il y a le Barça qui a payé 10 millions d'euros au père. Petite incitation à faire changer d'avis à son fils, et il est venu au Barça, quoi.
Donc ça c'est un bon coffre-fort quand même.
Ça peut faire changer d'avis.
Jean-Michel, par rapport à ce que tu disais, je suis d'accord avec toi. C'est possible et probable qu'il demande à partir cet été. Mais je vous assure, je mets ma main à couper, les Qataris refuseront catégoriquement, par fierté et par intérêt politique, de le laisser partir à la fin de la saison.
J'espère qu'à ce moment-là, il n'y aura pas une quantité industrielle de blessures diplomatiques, hein.
Non, mais il peut avoir une petite compensation, une petite rallonge, tu vois ce que je veux dire?
Bon, d'accord.
Et je sais que Fred va me confirmer que Neymar et Papa Neymar aiment beaucoup ce genre de petites compensations.
Ils l'ont fait tous les six mois au Barça, hein,
voilà.
Bon, on verra ça, messieurs. En tout cas, pour l'instant, nous, les infos qu'on a, c'est plutôt que Neymar devrait rester au PSG.
Il y a un contrat, il paraît.
Exactement,
Captain. Il y a toujours un contrat.
Jonathan, merci. À ce soir dans l'after, après Dijon-Lyon, à 23h, l'after ce soir.
Un grand week-end en plus, hein.
Un grand week-end, bien sûr.
Il y a Lille, Marseille, il y a des beaux matchs, il y a Nice-Montpellier,
c'est... Finale de la Coupe.
Ligue 1, c'est génial, c'est pas la Ligue 1 espagnole, la meilleure, c'est la Ligue 1.
Oui, oui, on va
Ligue 1 Conforama, c'est extraordinaire.
Oui, très bien, Jonathan. Merci. Va prendre tes cachets et à ce soir dans l'after. Fred, merci également.
Merci, Fredo.
Bon week-end. Captain, je rappelle que la Ligue 1, ça commence dans 7 minutes, hein, avec le coup d'envoi du derby entre Nantes et Rennes avec Xavier Grimaud. On sera sur place. On est également à Monte-Carlo pour le Masters 1000 et Richard Gasquet face à Zverev. On est dans la deuxième manche. Eric Salio.
On est au début du deuxième set, effectivement, Richard Gasquet mène une manche à 0, 6 jeux à 4, mais comme je le présentais, ça s'est compliqué, puisque Zverev s'est détaché 2 jeux à 0, mais l'Allemand a commis quelques petites erreurs, hein, et donc Richard Gasquet est revenu à 2 jeux à 1, s'il va servir dans quelques secondes, mais physiquement, ça va être dur de tenir la cadence du jeune Allemand qui fête aujourd'hui son 21e anniversaire.
Je trouve qu'il a l'œil du tigre, Richard, ce soir.
Oui, il a l'œil du tigre, mais il va pas pouvoir embrouiller son adversaire pendant deux heures avec des tours de passe-passe.
Ah bah, t'es sûr qu'il faut finir ça en 2-7 avec Richard, de toute façon, hein. Ça, on le sait, hein.
Bon, je sais.
Écoute, on va suivre ça, hein, Eric, bien sûr, mais pour l'instant,
c'est
quand même
passionnant. C'est un beau match de tennis, en tout cas. Il fallait ça parce qu'aujourd'hui, on s'est un peu embêté.
Captain, pris pour une victoire de Gasquet, je le sais. Ça fait partie des tennismans que tu adores.
Ah, j'adore. D'une manière générale.
Les Français, hein, c'est ça. Allez, dans un instant, notre
invité.
Il habite
toujours Béziers, lui, hein?
Non, il est en Suisse.
Oui, enfin, officiellement.
Non, mais qui est-ce qui a plongé, là? On va parler.
C'est moi, mais bon. Mais c'est pour que les gens comprennent, sinon on comprend pas tes blagues, Captain. Voilà, je suis obligé de les expliquer, malheureusement. Ruben Aguilar.
Mais quand il fait Montpellier, il dort chez lui, oui.
Ah oui, c'est ça. C'est déjà bien.
Mais ça n'arrive qu'une fois par an, Montpellier.
Bah, oui. Ruben Aguilar, il n'est pas bolivien, il est français, il est latéral droit de Montpellier, et il est l'invité de l'Arc et Foot dans quelques secondes. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h, L'Arc et Foot. Jean-Louis Tour, Jean-Michel Larquet.
Captain, avant d'accueillir Ruben Aguilar, le défenseur latéral droit de Montpellier, tour de nos directs. Gasquet Zverev, le tennis, le Masters 1000 de Monte Carlo, Eric Salio.
Ouais, et l'Allemand est en train d'imposer sa jeunesse et sa puissance. 3-1 dans le deuxième set pour Zverev. On rappelle quand même que Gasquet mène une manche à 0, mais ça devient de plus en plus dur, ce quart de finale.
Le tennis et la Ligue 1, début de la 34e journée, dans une minute, coup d'envoi de Nantes. Oh, l'ambiance est là, Xavier Grimaud à la Beaujoire. Salut Xavier.
Salut Jean-Louis, salut Jean-Michel.
Salut.
C'est
bonsoir,
quoi cette bronca là? Qu'est-ce que t'as fait Xavier?
Ah, j'ai rien fait du tout, c'est la bronca entre les supporters de Nantes évidemment et le parcage rennais qui est très très bien rempli. L'ambiance va être très très belle, très très chaude, hein. C'est évidemment le derby le plus chaud de l'Ouest ces dernières saisons, et sur le terrain surtout, Jean-Michel, cette année il y a un vrai enjeu qu'on n'avait pas depuis certains disaient même 30 ans, à savoir la course à l'Europe. Ça rajoute du piment, tout ça, forcément, même si la spirale
bien sûr.
Évidemment, même si la spirale est plutôt négative pour le FC Nantes, mais bon, avec l'énorme couac inattendu de Rennes face à Metz le week-end dernier, tout est possible, hein, dans ce derby. Avec également les 75 ans du FC Nantes, Jean-Louis, hein,
ah oui.
C'est important. Est-ce que oui, je vous donne le 11 de légende, capitaine, ça va t'intéresser.
Déjà, il y a du beau monde pour donner le coup d'envoi, là, t'aperçois ça.
Absolument, c'est Reynald de Noix qui va donner le coup d'envoi.
Et Coco Suodo.
Et Coco Suodo, le 11 de légende, je te le donne, Jean-Michel. C'est Landreau dans les buts, 42 arrière-droit, Fabri Yepes. Fabri Yepes en défense centrale, Bossis, arrière-gauche, Carrière, Henri Michel, Amis Darocha, et en attaque, Ali Ludwig. Jafet Endora, mais le joueur de légende, ça a été évidemment Henri Michel, sans trop de surprise, mais élu par les supporters.
Captain, t'es obligé de mettre Mickaël Landreau dans les buts de Nantes quand même, dans l'équipe de légende.
Bien sûr, mais il était meilleur que Bertrand Demann ou Eon, mais bien sûr, bien sûr.
C'est terrible quand même.
C'est la plèbe qui vote, Jean-Michel, c'est ça.
Il y a un truc révélateur quand même, c'est qu'on retient surtout les équipes années 90, enfin les équipes récentes, quoi.
Ouais, c'est vrai, absolument, absolument, années 80, notamment les trois
titres. Celles qui ont joué à la Beaujoire et pas à Marseille sont pas.
Absolument, parce que par exemple Bernard Blanchet n'est pas là, le meilleur buteur de l'histoire du club en Ligue 1, donc forcément ceux qui votent sur Internet sont
plutôt. Gondé qui a été le meilleur avant-centre.
Ouais. Bien sûr. Je pense que dans l'équipe actuelle, il n'y en aura pas beaucoup dans le 11 de légende la prochaine fois qu'il y en aura un.
Bon, a priori, non.
Mais un mot sur les compos, Xavier.
Ouais, avec pas mal d'absents des deux côtés, on va commencer par les Nantais. Dubois, le capitaine, est suspendu, alors que le coup d'envoi est donné à l'instant par le FCN, qui joue d'ailleurs avec le maillot jaune et vert, avec les rayures vertes à la verticale, là, le très beau maillot des années 90. Donc Dubois est suspendu, Diego Carlos est blessé, ce sont deux absences d'importance. Ce sera un 4-4-2 avec Nakul Masala à la pointe de l'attaque. Petite surprise, c'est Rongier qui est sur le banc, donc au milieu de terrain. terrain, on aura les plus défensifs, on va dire Abdoulaye Touré et Giroto. Côté Rennais, il y a pas mal de suspendus aussi. André Ismail Assar suspendu, Traoré est blessé. Donc il y a des surprises avec le retour complètement inattendu d'Amal Fitano. On l'avait pas vu titulaire depuis le mois de février. Il est titulaire en soutien de Wahbi Khazri, alors que le match est déjà arrêté parce que les supporters nantais ont balancé, je crois que c'est des balles de tennis,
ouais,
hein,
c'est ça exactement.
Ouais, bon, magnifique. Sur leur propre gardien.
Bon, ouais, très bien. Alors Xavier 0-0, match 0-0. Arrêté pour l'instant. Bon, ça va reprendre très bientôt. En tout cas, l'ambiance est là. Hein. C'est magnifique d'entendre ça à la radio. 0-0 entre Nantes et Rennes. Ah, on entend même les chants contre la ligne parfaitement. C'est excellent.
Qu'on ne dira pas.
Non, mais bon, on les a compris. Voilà. Ouais. Notre invité est là, captain, avant la suite de nos directs. C'est le défenseur latéral droit de Montpellier. L'une des révélations de la saison. Ruben Aguilar est avec nous dans l'Arc et Foot.
Salut Ruben.
Salut, bonjour.
Oui Ruben, révélation parce que dans une formule avec cinq défenseurs, Aguilar à droite et Roussillon à gauche, vous avez fait beaucoup parler de vous en général et de toi en particulier.
Bah tant mieux, c'est une bonne nouvelle, ça fait toujours plaisir. Après, je pense que c'est toute l'équipe qui a fait un énorme boulot. Il n'est pas encore fini parce qu'il y a encore des matchs très très importants si on veut finir la saison en beauté.
Alors il y a eu un faux pas incroyable contre Bordeaux et puis je crois que c'est dimanche hein, qu'il y a une quasi finale pour la sixième place qui devrait être qualificative pour l'Europa League. C'est à Nice, mais le paradoxe de Montpellier cette année, c'est que les déplacements chez les gros, ça vous fait pas peur?
C'est sûr que les déplacements, que ce soit les matchs contre les gros, simplement, ça nous fait pas peur parce qu'on a eu des très bons résultats.
Sauf à après, Paris, on va dire. Allez, on va mettre le déplacement au parc, entre guillemets, mais tu y étais pas au parc. Tu y étais pas. Donc
celui-là, il compte pas parce que c'est un déplacement très très compliqué pour n'importe quelle équipe de Ligue 1. Donc celui-là, il compte pas.
Et donc,
mais c'est sûr que dimanche, ouais, c'est un gros match déjà pour le classement. Si on veut continuer à espérer une place à l'Europe, mais surtout pour se reprendre parce que on a concédé un résultat négatif à la maison contre Bordeaux.
Alors toi, en revanche, tu ne seras pas là dimanche puisque t'es blessé, déchirure à la cuisse. T'en as pour au moins 3 semaines. T'espères quand même revenir pour les deux dernières journées.
Non, voilà, moi j'en ai pour 3 semaines minimum. Après, on verra. Il y a un staff médical ici très compétent. On va faire le nécessaire, mais je vais quand même prendre le temps de bien récupérer pour pouvoir revenir à fond.
Est-ce que ça te met un petit coup dans le sens où il y avait peut-être secrètement, très loin, un petit espoir pour la Coupe du Monde? À ce poste d'arrière droit, on est en pénurie, il y a des blessés, il y a des joueurs qui ont convainc peut-être pas à 100%. Est-ce que tu avais ça dans un coin de la tête ou pas du tout, c'est trop loin?
Non, franchement pas du tout. Pour moi c'est encore trop loin puisque j'ai fait qu'un an en Ligue 1. Je pense que le mieux que je puisse faire, c'est confirmer l'année prochaine. Donc honnêtement, j'y pensais pas du tout. Et voilà, maintenant, je pense à me rétablir au plus vite pour pouvoir revenir.
Une saison en Ligue 1, tu espérais, tu imaginais que tu étais à ce niveau-là? Parce que, comme je l'ai dit en préambule, lors de la première question, on a beaucoup parlé des défenseurs latéraux de Montpellier qui ont beaucoup apporté, et défensivement et offensivement, à cette équipe.
Ah, c'est sûr que c'est un système qui me correspond parce que déjà, courir ça me déplaît pas. Après voilà, c'est un système aussi qui demande beaucoup beaucoup d'efforts. C'est pour ça que moi je dois m'améliorer aussi dans ce système là surtout offensivement. Je dois essayer d'être plus performant. Après voilà, c'est sûr que c'est compliqué, mais c'est vrai que ce système, comme vous l'avez dit, met en valeur les pistons, si je peux dire. Mais après, c'est aussi les joueurs qui sont derrière nous, les trois stoppers, les joueurs au milieu. Enfin, c'est un boulot énorme que toute l'équipe a pu faire.
Et tu sentais que tu avais dans les jambes, comme ça, d'avoir le niveau en Ligue 1 dans une équipe de haut de tableau? Ou même toi, t'as été surpris?
Non, c'est sûr que quand je suis arrivé, je me suis dit, voilà, faut que je joue quelques matchs cette année. En faire 30, pour moi, c'était un super résultat. Après, on m'a donné ma chance, j'ai su la saisir. Enfin voilà, je sens aussi que je progresse tous les jours, que ce soit à l'entraînement ou en match. Le staff donne beaucoup de conseils, donc j'apprends et j'ai envie de continuer à apprendre comme je le fais tous les jours.
On a vu que l'équipe de Montpellier, bon, je crois que vous êtes les champions de France ou presque champions d'Europe du nul, hein, du résultat nul.
Ouais.
Vous n'aimez pas trop prendre le premier but. Et ça c'est quelque chose qui est un petit peu chez vous qui vous met dans une zone d'inconfort, hein.
Ouais, parce que C'est sûr que déjà marquer des buts, c'est compliqué, c'est dur, surtout en Ligue 1. Mais quand on en prend un, c'est sûr qu'on a du mal à revenir, comme vous l'avez dit. Mais voilà, maintenant, pour pouvoir gagner les matchs qui nous restent, il va falloir en marquer le plus possible. Donc à nous d'être performants dans ce domaine-là.
L'objectif européen, ce serait le couronnement d'une super saison. Vous le voyez comme ça, vous vous dites là maintenant, on est tellement proche, on est à un point seulement de l'Europe. Faut aller le chercher, sinon on aura un goût d'inachevé. Ou vous vous dites, bah quoi qu'il arrive, même si on fait première moitié de tableau, la saison elle sera réussie.
Bah alors j'ai envie de dire un peu des deux parce ouais. que au début on jouait le maintien. Maintenant. Pour nous, ça devrait être que du bonus. Honnêtement, ça devrait être que du bonus de pouvoir prétendre à jouer l'Europe l'année prochaine. Même si je pense qu'on a une petite pression, mais voilà, c'est cette pression. Faut pas que ça devienne un fardeau. Faut qu'on joue, faut qu'on se libère et qu'on joue match après match parce que voilà, on a acquis le maintien assez tôt dans la saison. Et maintenant, on doit se lâcher, quoi.
Ouais. Et dis-moi, t'as encore des médias sud-américains qui t'appellent?
Non, c'est terminé. Ah, c'est coupé fini. Court parce que j'en pouvais plus.
Bah oui, tu m'étonnes. Parce qu'on rappelle l'histoire. En fait, c'était quoi? C'était un bug sur Football Manager qui te mettait ouais, une voilà, nationalité en fait. Colombienne ou bolivienne, non? C'est ça?
Non, bolivienne. Ouais, bolivienne. En fait, c'est ça. Le jeu Football Manager m'a mis comme double nationalité bolivienne. Donc ensuite, les journaux là-bas ont accentué la chose. Et quand j'ai commencé à jouer avec Montpellier, contre 3, ça a commencé à parler. Et ensuite, contre le PSG, où on a fait 0-0 à la ouais. maison. Alors là, ça a pris une ampleur pas possible. Mais ouais, ils pensaient là-bas que j'étais bolivien, donc sélectionnable pour la sélection. Quoi.
Oui. Enfin, y a, déjà avec le prénom et le nom, bah il oui. y a de quoi se tromper, Ruben.
Ah non, c'est pour ça. En plus, ils ont cru que mon père était de là-bas, d'un village, alors que pas du tout. Ça a pris une ampleur. Ah,
à mon avis, des Aguilar, il doit y en avoir quand même quelques, à peu près partout à l'Amérique du Sud. Hein,
et donc, t'as fait comment?
Je pense qu'il y en a à peu près partout là-bas.
T'as changé de numéro? T'as fait comment?
Non, c'est arrivé aux oreilles du sélectionneur, bien sûr, parce que j'ai dû dire que non, j'étais pas sélectionnable, quoi.
Ouais.
Bah, moi, j'avais fait un article sur, enfin, pas un article, mais un communiqué sur un réseau qui est Facebook, et j'ai dit que non, j'étais pas bolivien, quoi.
Non, mais au pire, si dans 3-4 ans ça se fait pas en équipe de France et que la Bolivie est qualifiée pour la Coupe du Monde, tu peux peut-être dire une semaine avant, bon bah finalement si, j'avais un grand-père bolivien.
Ah, ça serait trop facile.
Ouais, c'est vrai.
Oh, ben il y a Courbis qui s'est trouvé des rapins en grec.
Je n'osais pas le citer, mais oui. Roland Courbis qui bosse avec nous s'est trouvé ça à l'époque parce qu'il fallait être grec pour entraîner l'Olympiaco, je crois. Enfin bon. Bref. Ruben, merci beaucoup.
En tout cas, Ruben, félicitations.
Ouais, merci à vous.
Félicitations. Bon, tu vois que parfois quand on n'est pas gardé dans un centre de formation, faut pas se décourager, Ruben. Hein,
ah, c'est sûr. Ouais, non, faut jamais se décourager. Et voilà.
Toi, c'était à Saint-Etienne que t'avais pas été gardé. C'est ça.
Ouais, c'est à Saint-Etienne que j'avais pas été gardé après mes 2 ans de stagiaire pro.
Ouais, bah voilà, comme quoi on peut avoir du nez il y a 50 ans avec Captain Larquet et en avoir un peu moins là il y a quelques oui, mois. Mais merci Ruben.
Problème d'odorat.
Ah, merci à vous.
Merci Ruben.
À bientôt sur RMC.
Allez,
salut. Des problèmes d'odorat. Ruben Aguilar, donc avec nous dans l'Arkéfoot sur RMC, le latéral droit de Montpellier. Nantes Rennes, le direct, début de match largement pour les Nantais, Xavier Grimaud.
Ouais, on atteint la 9e minute, effectivement, début de match en faveur du FC Nantes avec une première situation à la 6e, un centre venu de la droite d'Iloki, la reprise de Salah qui est passé à côté début de Koubek et un corner là qui a été détourné de la tête par un défenseur rennais. Le nouveau corner n'a rien donné. Les Rennais qui ont du mal à se porter vers l'avant. Peut-être ici Romain Danzé qui va jouer pour Casri. Le ballon qui est dans les pieds d'Amalfitano. Amalfitano avec Casri. On va revenir pour Romain Danzé. Et Benjamin Bourigeaud va rater son contrôle. Et le ballon à nouveau récupéré par les Canaries. 0-0.
Bah oui.
10 minutes de jeu. Grosse ambiance.
Bah, je croyais que Yo-Yo jouait, mais Yo-Yo ne joue pas.
Et
hein.
Non, il nous l'a dit.
Ouais, c'est surprenant hein, parce que Johan Gourcuff a joué. Bah, c'est surprenant dans le sens, capitaine, où Johan Gourcuff a joué samedi dernier face à Metz. Il a même donné une passe décisive. Et donc on pense qui pouvait jouer ce match. Et Lamouchi préfère ressortir un petit peu du de la cave Amalfitano qu'on n'avait pas vu depuis un mois et demi. Hein, ouais, donc, ouais. Donc c'est ce choix-là qui est surprenant dans la compo de Sabri Lamouchi.
Merci Xavier. Le score entre Gasquet et Zverev, quart de finale du Master 1000 de Monte Carlo, Eric Salio.
Je vois pas comment on peut échapper une troisième manche puisque Alexander Zverev mène 5 jeux à 2 dans le deuxième set. On rappelle que Gasquet a pris le premier 6-4.
Merci Eric. La Coupe du Monde, la Russie, on y va.
Passez-moi à Paris. Code rouge.
Parlez après contact.
Êtes-vous un espion ?
Vous aurez la liste de 15 000.
Oh, j'ai réussi, j'ai tout flé. Mais pas qui est un.
En tout cas, on peut dire que le soviet éponge.
Nous sommes à 55 jours du début de la Coupe du Monde en Russie. Deux infos à donner, Captain Larquet, oui, dans le téléphone rouge. 60 députés européens de tous bords politiques, de toutes nationalités, ont appelé aujourd'hui, dans une lettre ouverte, les gouvernements de l'Union européenne à un boycott diplomatique de la Coupe du Monde pour protester contre Vladimir Poutine. Ils ont déclaré en ces temps difficiles.
Boycott diplomatique, hein.
En ces temps difficiles, le monde entier se tourne vers l'Europe. Nos gouvernements ne devraient pas suivre la voie autoritaire et anti-occidentale du président russe, mais plutôt boycotter la Coupe du Monde de la FIFA 2018 en Russie et élever leur voix en faveur de la protection des droits de l'homme, des valeurs démocratiques et de la paix.
Il me semble que ceux qui étaient en pointe dans ce domaine-là, c'était les Islandais.
Oui, avec les avec les Anglais, avec l'assassinat de Skripal.
Non, l'empoisonnement.
L'empoisonnement, oui. Oui, effectivement. Bah, eux disent assassinat.
D'accord, oui, mais il est toujours en vie.
Ah bon?
Ah, je crois, oui.
Ah oui, oui.
Mais je crois.
Pour moi, alors. Oui, oui.
Me semble que ça va mieux. Mais bon, on n'entend pas beaucoup parler de ça. Mais pioche un petit peu parce que je dis peut-être une bêtise.
Non, mais je te fais confiance.
Pioche.
Non, je te fais pas confiance.
Bon, non, tu ne me fais pas confiance.
Autre info concernant les primes de l'équipe de France. Il y aura pas de primes si les Bleus sont éliminés avant les quarts de finale. Ce qu'on peut vous dire à RMC Sport. Par ailleurs, les Français toucheront donc 30% de la somme allouée par la FIFA à la délégation française. Ça veut dire que ça pourrait monter jusqu'à 400 000 euros par joueur en cas de victoire.
30% si
de l'argent alloué à, que la FIFA donne.
Ouais, ça dépend à quel niveau jusqu'à quel niveau ils vont.
Oui, c'est ça, c'est pour ça que ça peut monter jusqu'à 400 000 en cas de victoire.
D'accord.
Voilà pour l'actu de la Coupe du Monde. Dans une seconde, on revient avec Larquet Story et Alain Giresse. En retrait pour Giresse, à tout de suite. On te confirme qu'il n'est pas mort, Skripal. Hein.
C'est bien, toi, tu l'avais déjà enterré. C'est quand même un drôle de zozo. Tu devrais travailler dans les pompes funèbres, toi.
Autant pour moi. Mais ouais. Cool pas. Ouais. Bon, Captain, t'es pas à Paris demain matin?
Non, pourquoi?
On a un gros match. Hein. Et tout le monde vient nous voir, là. Coach Courbis.
Ah bon? Et c'est quoi? C'est une finale?
C'est une demi-finale de coupe.
Bon, contre qui vous jouez?
Bah, une bonne équipe.
Bon, et tu es titulaire?
Ah, je suis le seul gardien. Encore heureux. Voilà, t'imagines s'ils disent non,
mais j'ai confiance en vous. Vous allez porter haut les couleurs de RMC.
Oh, on va essayer. Allez, les messages sur le hashtag RMC Live sur Twitter. Il a l'œil du tigre, Gasquet, nous dit Ronaldo. Il a plus l'œil de tigrou, nous dit-il sur le hashtag RMC Live. C'est vrai que ça s'est compliqué pour Gasquet depuis. Pronostic pour cette soirée, Nantes, Rennes, 3 partout, annonce I2SVH. Et Lyon s'impose 3-1 à Dijon. Bon, le 3 partout n'entraîne, je sais pas pourquoi, j'ai un peu de mal.
Moi aussi, oui, je pense qu'il est très optimiste, notre ami.
Ouais, mais un match nul, pourquoi pas? Pourquoi pas?
Nul, complètement nul, pourquoi pas?
Voilà. Autre message sur le hashtag RMC Live, vous pouvez interagir. On nous dit le problème avec les rumeurs autour de Neymar, c'est que ça va surtout créer des problèmes autour du PSG. C'est Warthog Tony qui nous envoie ce message-là. Bon, après, je pense
qu'il s'est rendu compte quand même.
Ouais, mais c'est pas les rumeurs autour d'un départ qui posent de problème, non?
Bah, c'est
ils sont habitués à ce genre de.
Ouais, bah enfin, ils vont faire le cirque. Papa Neymar va faire le cirque.
Ah, écoute, oui.
Ah, à mon avis, on va pas y échapper.
Ouais. Il y a des chances. Et puis vous nous envoyez donc vos messages sur.
Et Arsène Wenger s'il gagne la Coupe.
Arsène Wenger n'a pas pris sa retraite. C'est Coach Courbis qui nous l'a appris. Non, il n'est pas parti d'Arsenal. Hein. Attention, il peut refaire une saison en plus. Écoutez le podcast pour comprendre ce à quoi on fait allusion. Et à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h, Larquet Foot, Jean-Louis Tour, Jean-Michel Larquet.
Avant la séquence nostalgie, Larquet Story avec Alain Giresse, les directs, les scores uniquement messieurs, n'entraînent la Ligue 1, début de la 34e journée, Xavier Grimaud.
La 17e minute à la Beaugeoire, 0-0 dans le derby.
Le tennis, Gasquet Zverev, quart de finale à Monte Carlo, Master 1000, Eric Salio.
90 minutes de jeu, 6-4 Gasquet, mais 5-2 RF dans le deuxième.
Merci Eric. Allez, Captain, on retourne, on file dans les années 80.
une qualification pour la demi-finale d'une Coupe d'Europe des Clubs Champions se joue ici à Trivoy Rock
sur un pénalty, un coup de pied au but de Fernando Chalana.
Il y est ! Bravo mon petit bonhomme ! C'est fait ! Lui le gaucher, il a frappé, il a eu le culot de frapper ce pénalty du pied droit.
En retrait pour Giresse, en retrait pour Giresse.
Oui ! En retrait pour Giresse. Oui ! Giresse qui marque le troisième but, 3 buts à 1. 9e minute de la prolongation.
C'est évident que nous n'avons pas fait le déplacement pour rien.
Ah oui, on n'a pas fait le déplacement pour rien. Captain, on va se remémorer certains matchs dans l'Arkay Story. On convoque tes souvenirs, tes anecdotes jusqu'à ta retraite après la Coupe du Monde. Et on est en direct avec Alain Giresse, légende du foot français, Captain.
Salut Gigi.
Salut Jean-Michel.
Il y a des choses fabuleuses. Il y a des choses fabuleuses, oui.
Ah, tu veux commencer par quoi entre les deux, Captain?
Ah ben, on va commencer par 82 parce que Gigi nous avait régalé avec un milieu de terrain. Alors, tu sais, on parle de complémentarité, de sentinelle, de ceci, de cela. Alors, l'équipe de France jouait en 4-3-3 à cette époque-là. Et donc devant, il devait y avoir Bernard Lacombe, Dominique Rocheteau, Didier Six, je me trompe ou pas?
Exactement, c'est ça, Jean-Michel.
Et au milieu du terrain, mon petit Jean-Louis, il y avait trois numéros 10. Parce que à
Giresse,
l'époque,
Tigana, Platini.
Bernard Genghini était le meneur de jeu de Sochaux, Gigi évidemment le meneur de jeu de des Girondins, et Michel Platini le meneur, donc avec trois numéros 10. Et donc arrive ce match contre l'Allemagne, mais je laisse à Gigi le soin de raconter.
Demi-finale de la Coupe du Monde 82, bien sûr.
Oui, la demi-finale, et je laisse à Gigi, qui était sur le terrain, mais qui m'a entendu. Il m'a entendu, Didier Six aussi m'a entendu, donc je laisse à Gigi le soin de raconter la suite.
Ouais, t'as raison Jean-Michel, effectivement, puis venu était complété, c'était Jean Tigana qui était venu pour, Michel Hidalgo était passé à 4 milieux, donc voilà, et puis on est arrivé, on a continué comme ça pour arriver jusqu'en demi-finale. Et effectivement, moi je me suis, mon but il est agrémenté par ton commentaire, en retrait, toi t'avais vu ça sur le terrain, tu le sentais évidemment. Et t'avais une sacrée confiance en moi en plus. Je te remercie.
Bon, j'ai toujours une confiance en toi.
Et chaque fois que cette image passe, il y a ton commentaire derrière qui vient enrober tout ça. Voilà, d'un moment fort, d'un moment énorme d'ailleurs. Hein, quand Thierry dit ça y est, on est en finale de la Coupe du Monde. C'est à ce moment-là, nous aussi, on croyait, moi aussi, quand je cours comme ça, là, ivre de joie, je crois qu'on est en finale de la Coupe du Monde, voilà. Après, on connaît malheureusement l'issue cruelle de ce match-là, et comme quoi, comment dirais-je, les actions, certaines actions, et les commentaires qui vont avec, tout d'un coup, créent tout d'un coup...
Mais tu sais, Gigi, Gigi, beaucoup m'ont dit, oui, t'as anticipé, mais finalement, quand on est à l'entraînement, c'est ce qu'on demande sur un défenseur, un attaquant qui est au contact d'un défenseur, de la mettre en retrait, d'essayer de s'appliquer pour le mettre dans les meilleures dispositions. Finalement, on n'a pas de mérite à dire ça, puisqu'on le voit, nous, on le sent.
Oui, non, c'est exactement, c'est-à-dire toi, en plus, en étant sur le stade, tu avais la vue d'ensemble du terrain, chose que quand tu vois les images à la télé, quand tu dis en retrait pour Giresse, on me voit pas. Toi, tu le vois parce que tu étais depuis le terrain et tu as senti et tu te dis, c'est la logique même que Didier, il doit ressortir ce ballon, il y a Gigi qui arrive, et il faut qu'il lui sorte ce ballon parce qu'il n'a pas d'autre issue. T'as analysé la situation, il n'y a pas d'autre issue que de me le mettre en retrait, après à moi de faire le geste qu'il faut.
Tu la prends un peu extérieur, non, Gigi?
Ouais, exactement. Mais tu sais, quand tu regardes bien, il me le met, et oh là, moi qui suis droitier, j'ai dit, mais oh là là, et il me met comme ça, je dis, oh, mais Didier, tu ne me mets pas forcément le ballon le plus sympa à reprendre, donc je m'applique à prendre l'extérieur, parce que c'était le meilleur gage de réussite que je pouvais espérer en prenant ce ballon comme ça.
Alors, Alain, autre souvenir dont on voulait se rappeler avec vous, évoquer effectivement, c'est l'année 1985 et ce quart de finale de Coupe des Clubs Champions face à Nipopetrov.
Ah là là.
Match qui s'est déroulé.
Oh, mais là, il faut faire une émission.
Ah bah vas-y, raconte, Captain.
Alors, il faut faire une émission parce que nous voilà en train d'atterrir à Kiev, et à Kiev pour passer la douane. Et à Kiev, ben on nous dit, voilà, on passe la douane. Alors, assez étrangement, on passe la douane
Allez, très facilement, très très rapidement.
Et toi, tu voyageais avec les joueurs là?
Non, on avait deux avions.
Ah d'accord. Okay.
Alors il y avait déjà quelqu'un qui avait dit à Claude Bèze, Monsieur Bèze, je pense que vous voulez voyager avec Air France. Il eût été mieux de voyager avec Aeroflot. Je suis français. Je voyage français. Ouais. Avait dit,
d'accord.
Claude Bèze. Donc très bien. Nous arrivons et nous remontons dans les avions. Et alors là, quelque chose d'imparable. Il y a du brouillard sur Krivoy Rog parce que l'équipe ne pouvait pas jouer à Dniepr parce que c'était une ville interdite.
Ouais.
Et donc c'était Krivoy Rog. Donc on descend et là il y avait les bus et puis une fois qu'on était dans les bus, l'hôtel était tout prêt, tout était fait. Bon, organisation formidable des Russes. Donc ils avaient prévu le brouillard eux, pas nous. Ils avaient prévu le brouillard. Et à un moment donné, on descendait des chambres en nous disant on va partir. Puis on remontait dans la chambre parce qu'on était parti. Et un jour, il y a une petite interprète, Mamouchka, là, qui devait faire 1m55, qui dit à Claude Bèze, dites-moi, président, il y a les ministres des sports ukrainiens. Voilà, on était tous autour de Claude Bèze. Il fait, le train il est prêt, vous pouvez aller à Krivoy Rog. Non, Claude Bazier, pas question, on ira à l'avion. Et à un moment donné, il y a Claude Bazier qui lui dit dites-lui que c'est un con. Et
là, l'interprète,
elle savait plus où elle était. Et ces pauvres joueurs, ils sont arrivés à 1h de l'après-midi. Il faisait un temps magnifique à Krivoy Rog. Et en apothéose, but de Tussaud.
Ah
but
oui.
De Tussaud, Thierry Tussaud, qui avait jamais marqué un but avec les Girondins. N'est-ce pas, Gigi?
Non, complètement. Non, mais ce que tu racontes est tout à fait vrai, c'était incroyable. Mais je veux dire, même, je sais pas, en le racontant, Jean-Michel, les gens ne peuvent pas s'imaginer qu'un quart de finale de Coupe d'Europe, on ne puisse vivre ce match dans de telles conditions, quoi. Comme on est arrivé, effectivement.
On est arrivé à midi, quelque chose comme ça, non, à Krivoy Rog?
Oui, non, mais c'est ça, 13h. Et puis, attends, c'est tout le monde, c'est Mémé Jacquet, notre coach, etc., qui nous servait à table pour aller rapidement, qu'on puisse manger un petit peu, se reposer.
Et puis, aller partir
au stade. On est arrivé le jour du match.
Et donc, but de Thierry Tussaud et cerise sur le gâteau. Et là, il y a Thierry qui appuie sur le bouton rouge pour couper l'antenne. Il me dit, il est gaucher, Chalana. Et je lui dis, oui. Et là, il reprend l'antenne. Et c'est là que tu as dans le montage.
Ouais.
Et Chalana tire au but décisif, Jean-Louis, pour te dire quand même le quotient de, enfin la confiance. Il l'a frappé du pied droit.
Ah ouais, c'est incroyable. Bah, alors, excellente anecdote. Malheureusement, le temps nous est compté, donc on ne peut pas continuer. Mais on aura plein d'autres anecdotes de toute façon à se remémorer avec toi les prochaines fois. Alain Giresse, merci beaucoup.
Merci,
Alain.
Gigi.
Oui, mais je salue Jean-Michel. C'est la quille, Jean-Michel, hein.
Oui, donc, c'est la quille. Oui, c'est la quille.
À une prochaine, à la fin.
Je t'embrasse, à très vite.
Au pays,
ciao.
Alain Giresse, donc, légende du foot français, donc qui était avec nous dans l'Arké Story.
Petit joueur, hein.
Oui,
petit footballeur.
Bah, par la taille, oui, t'as raison. 0-0. Il était pas très grand, Alain Giresse.
Non, 1m64.
Voilà. Mais alors, entraîne 0-0, on est dans le troisième set entre Gasquet et Zverev, 1-0 pour Zverev. On continue de suivre ces rencontres dans le Super Football Show qui arrive tout de suite. Merci, Captain. Bon week-end, à vendredi prochain.
Je vous écoute. Ah, enfin, parfait. Je vais écouter. Qui c'est
Christophe Arnaud Souk, il arrive tout de suite, on n'a plus le temps là.
D'accord.
Ça va, Arnaud?
Oui, ça va, Jean-Louis. Voilà. Salut, Captain.
Allez, ciao.